France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Il s'était fait une tête superbe, une tête de philosophe, dit de lui l'un des invités de l'émission Profil perdu consacrée à François Châtelet. Alors la tête, oui, l'intelligence, la pensée, les études, les élèves, les amis, l'importance de comprendre les enjeux des débats passionnés, tout cela se trouve dans Profil perdu, François Châtelet. Première partie et première diffusion sur France Culture le 21 janvier 1988.
Le personnage central était facile à dessiner, à la fois flottant et lourd, prudent et entêté, sensuel et ombragé.
Je me sens vraiment un homme de l'âge des Lumières. Et puis alors, probablement, alors mes vraies rêveries, alors mes rêveries folles, j'aurais voulu faire partie du Brain Trust de Périclès, à côté de Phidias, d'Anaxagore.
À mon avis, les trois domaines où Châtelet prenait le plus son plaisir, et je veux dire son bonheur même plus que son plaisir, c'était quand il parlait avec ses élèves, quand il faisait des cours, ou quand il leur parlait après, car il avait des relations personnelles, c'était quand il était avec une femme qu'il aimait, ou c'était quand il recevait des amis qui leur offraient sa cuisine.
François pensait que la résistance contre le nazisme passait par, et j'ai trouvé ça très beau mais très utopique, il pensait que les soldats de l'armée allemande de deuxième classe était une victime d'Hitler, était une victime du nazisme. Et que la ligne juste, entre guillemets, consistait non pas à tuer ce deuxième classe, mais à lui expliquer qu'il était victime d'Hitler et que ce qu'il pouvait faire de mieux, c'était de déserter. Il paraît qu'il aurait réussi à faire déserter un soldat allemand.
Dans le contexte de l'occupation.
Oui, dans le contexte, c'est pas facile. Je veux dire, à la limite, c'était plus facile de les déquiller que de les faire déserter, parce que
Châtelet parle à la fois fort de l'intelligence, mais aussi du sens esthétique très fort qu'il avait. C'était fait une tête superbe, la tête du philosophe, par référence à la plus grande période de l'histoire européenne, qui est le 19e siècle, celle où vivait le vieil Hegel, le jeune Stendhal, l'adolescent Delacroix, le tout jeune Berlioz. Il y avait quelque chose de romantique et de grave à la fois dans son comportement, dans son visage, dans son allure. Il ressemblait au philosophe tel qu'il devrait être. Et je crois que ça faisait partie de l'ascendant qu'il exerçait, n'est-ce pas? C'était ce superbe visage de grand acteur qu'il avait conquis. Mais bien sûr, il avait naturellement une belle stature et un visage puissamment modelé, mais tout ça peut s'affaiblir ou s'avachir. Lui avait construit tout ça en une sorte d'œuvre d'art.
Et lui, quand il était échevelé, quand il était... il avait toujours l'air de diriger un orchestre. Je pensais à Beethoven physiquement. Au fond, ce genre de type, on aurait aimé les avoir comme pères.
Profil perdu, François Châtelet, une émission de Jacques Munier.
Moi, je suis parisien. J'appartiens à la petite bourgeoisie, une petite bourgeoisie qui a un peu progressé. Mon père était à la STCRP, ce qui est maintenant la RATP, réseau de surface. J'ai vécu dans des dépôts de tramway et d'autobus pendant toute mon enfance parce que mon père avait des logements de fonction, mais il a progressé à l'intérieur de sa propre situation, donc la situation s'est progressivement améliorée. Je suis donc entré au lycée en 6e en 1936.
Très jeune, j'ai été profondément choqué par un aspect de mon père que je connaissais si rieur et désinvolte dans d'autres circonstances. le plaisir qu'il prenait à donner des ordres. Je l'ai vu plusieurs fois le dimanche, alors que nous prenions le tramway pour aller chez des parents habitant à l'autre bout de Paris, descendre à un arrêt, fort en colère, monter à côté du conducteur et lui expliquer, avec une véhémence dont tout le wagon avait l'écho, comment il devait conduire selon le règlement afin d'économiser le courant et transporter les voyageurs en douceur. Il s'emparait des commandes, faisait une démonstration et revenait parmi nous, les mains sales et visiblement satisfait.
Et puis j'ai fait des études secondaires médiocres.
Quelques visages de profs et de copains me font signe sur un fond de grisaille et d'ennui, de peur et d'intense fatigue. J'ai eu froid pendant 6 ans, et pas seulement à partir de l'hiver 1940, lorsque les lycées cessèrent d'être chauffés. C'est au cours de ma seconde classe de première, j'avais subi un échec retentissant à la première partie du bac, que l'idée m'est venue d'entrer dans l'enseignement. J'étais devenu, dès la rentrée, brutalement, sans crier gare, bon élève. Certes, je redoublais, mais surtout, une relation d'amour passionnée et charnelle m'unissait à une lycéenne, qui fut ma première femme. Et j'avais découvert, dans la misère de l'occupation, sous les bombardements, la joie de vivre. Du coup, je me mis à lire avec démesure les grands romans classiques, Égide et Malraux, et les premières traductions de Kafka et de Faulkner, à travailler avec acharnement le latin, le grec et les mathématiques. J'avais pour professeur d'histoire un admirable petit bonhomme qui n'avait jamais ni voulu ni pu se débarrasser de son accent normand et dont les cours déclenchaient chez moi des rêveries studieuses que peuplaient Danton, Robespierre, Saint-Just, la conjuration des égaux et le jeune général Bonaparte. Et j'ai décidé de faire de la philo.
Mon père a accueilli la chose avec tristesse. Il aurait rêvé pour moi que Polytechnique, bien sûr, lui-même faisant de plus en plus fonction d'ingénieur, quoique étant sans diplôme. Bon, il a accepté que je fasse de la philosophie. Et puis ça, c'est parti comme ça. Enfin, je suis un exemple type de la promotion sociale des classes moyennes.
J'ai connu François, je dirais, à deux moments différents. D'abord, comme étudiant.
Olivier Revaud d'Allonne.
En 1900, si mes souvenirs sont exacts, 42, en licence de philosophie. Nous préparions le certificat d'histoire de la philosophie. Et François était reconnaissable dans la foule pas très dense des étudiants de philosophie de l'époque. Nous étions à suivre les cours d'histoire de la philosophie, probablement une trentaine, 40 peut-être, mais pas plus. Il y avait des gens qui, là-dedans, sont depuis devenus célèbres. Il y avait Jean d'Ormesson, il y avait Michel Tournier, Michel Butor, enfin. Et François se remarquait, d'abord parce qu'il était présent à tous les cours, et ensuite parce qu'il avait la tête couronnée d'une épaisse chevelure, qui, comme il était très grand, on le voyait tout de suite. Et là, nous nous sommes connus, fréquentés comme deux étudiants, mais sans une relation personnelle particulière, qui a commencé en 44, à un moment où j'ai dû quitter la Sorbonne en raison des circonstances. Je m'occupais à l'époque d'un petit groupe d'étudiants de philosophie. On polycopiait les cours des professeurs pour pouvoir les envoyer à ceux qui ne pouvaient pas venir, etc. Enfin, c'était évidemment une époque où la société entière traversait des crises multiples. Et quand j'ai pris la décision de quitter la Sorbonne, je suis entré dans la bibliothèque où travaillaient les étudiants, et j'ai crié à la cantonade, vous me passez l'expression, hein, je raconte la vérité, je crie, est-ce qu'il n'y a pas un con qui me remplacerait pendant un an ou deux? Et alors j'ai vu François se lever et dire d'un ton magistral et en même temps résigné, si, moi. Et alors à partir de ce moment-là, d'abord, nous avons pendant quelques jours travaillé ensemble pour la succession, si j'ose dire, enfin. Mais j'ai compris tout de suite que nous serions copains, que nous allions devenir amis, ce qui a été la vérité. Et puis alors, quand je suis revenu donc à la fin de la guerre, en août ou en septembre 45, eh bien nous étions à peu près au même niveau de nos études, lui et moi. Il fallait, je crois que c'était l'année de ce qui s'appelle maintenant la maîtrise. Et puis ensuite, nous avons préparé ensemble l'agrégation. Alors là, nous nous sommes vus très très régulièrement parce que j'habitais un tout petit deux pièces, pas très loin de la Sorbonne. Et alors c'était là, chez moi, que nous nous réunissions pour préparer le concours, enfin, d'une manière très 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 rigoureuse, très très scientifique. Ce qui me frappait à l'époque, si vous voulez, c'est que François prenait tout, aussi bien les choses de la vie quotidienne que les problèmes philosophiques du concours à préparer. Il les prenait à la fois au sérieux et avec humour, avec un certain humour.
Il était déjà le personnage qu'on a connu par la suite ?
En partie, oui. Oui. Il avait besoin d'exprimer ce qu'il savait, ce qu'il cherchait, ce qu'il sentait. Il avait un extraordinaire besoin de communication. C'est pas un besoin, c'est une croyance dans la vertu de la communication. Il répondait, on l'a signalé d'ailleurs à plusieurs reprises, des personnes qui ont été proches de lui. Il écoutait tout le monde. Il écoutait les gens, il écoutait les camarades, il écoutait les professeurs, il écoutait... Qui venait lui demander des lumières ou des... Parce que peu à peu, à la Sorbonne, autour de François ou derrière François étudiant, s'était formé une sorte de, je dirais, de cohorte, un petit peu comme la queue des comètes, vous voyez, de gens qui disaient, tiens, ben là j'ai une difficulté, on va demander à Châtelet. Donc il était étudiant, mais il était déjà sollicité d'être... Bon, un maître ou un aîné, un plus ancien, un moniteur, quelque chose comme ça. Moniteur, je crois que ce serait assez bien le mot. Celui qui avertit, celui qui dit, voilà, il y a ça à voir. Et les gens lui posaient la question, mais quand il descendait l'escalier de la Sorbonne, il y avait au moins 6 personnes derrière lui. François, il faut que tu me dises ceci, cela. C'était plus qu'une vocation d'enseignement, enfin c'était étymologiquement une vocation, il était appelé à... Et d'ailleurs, pendant tout son enseignement, autant que je le sache, puisque je ne l'ai pas suivi, sauf que j'ai fait certaines conférences avec lui ici et là, il procédait toujours par... Il était le questionnant, il était le questionné, mais il était aussi le questionnant. Et il commençait tous ses cours, chacun le sait, par question, objection. C'est-à-dire qu'il attendait de ses auditeurs un dialogue.
Et il plaçait ses invitations au dialogue en début de ses cours, ce qui est assez rare.
Oui, ça il s'en est expliqué. D'abord, le dialogue sollicité peut prendre plus de temps qu'on ne prévoit. Et par conséquent, si vous commencez à moins 10, l'heure va sonner. Et puis aussi parce que il faut laisser aux auditeurs le temps de mûrir leurs questions. Et ça, je crois que c'est pédagogiquement, c'est une très bonne façon de faire. Non, pour lui, c'était systématique. La philosophie n'est pas c'est pas une méditation solitaire. La philosophie est un effort de la raison pour essayer de comprendre... le monde, la société, l'homme, etc. Et par conséquent, une bonne philosophie, ça je ne crois pas du tout trahir sa pensée, une philosophie sérieuse et solide, se reconnaît au fait qu'elle est communicable. Il ne faut pas que la philosophie s'enferme dans la Bastille de son jargon ou de sa technicité.
Ça, c'est aussi un truc que les anciens nous ont révélé. Quel plaisir il y a à connaître. Autant c'est embêtant de savoir, mais connaître, quel plaisir réel de pouvoir se mettre à partir d'un petit texte sur la théorie de la mort chez les Égyptiens, ou à réfléchir sur ce que signifie écrire en idéogramme, ou se poser la question, par exemple, que se posent les, Les Arabes, après la mort du prophète, après la mort de Mohammed, qui donc peut succéder à un prophète, qui peut commander quand le prophète est mort, enfin, des choses passionnantes qui sont nos questions, parce qu'enfin, hein, c'est bien les questions politiques, ça, hein, et combien radicalisées, combien présentées intelligemment par les Arabes de cette époque-là. Eh bien, tout ça, je crois que c'est un vrai plaisir. Alors, par ailleurs, ça, probablement, j'espère que ça éclaire, que ça oblige à réfléchir politiquement. Ça, c'est mon vœu personnel. Cela dit, je m'en tiens au plaisir. Il y a des gens qui, plutôt que d'aller au club Méditerranée, se disent, on va aller faire un petit tour dans la Grèce ancienne, ou on va aller faire un petit tour parmi les moines du XIIIe siècle. Alors, ça, c'est un public aussi passionnant. Ce public qui se dépayse, fait un voyage, comme on dit un trip pour l'absorption de drogue aux États-Unis, je crois, hein, un tour dans le passé, dans le lointain. C'est même pas un passé, c'est un lointain, c'est un ailleurs. Hein. Et qui, du coup, je crois, quand ils reviennent à notre société, et c'est ça, au fond, que Gérard Méret et moi, on a voulu, reviennent à notre société et disent... Mais c'est maintenant qui est étrange. C'est maintenant qui est bizarre.
Et ça, j'avais fait cette expérience avec François dans les années probablement 47-48. Un vieil ami nous avait demandé de venir faire des conférences dans une université populaire qui se trouvait curieusement à Saint-Denis, qui est là où se trouvait aussi l'université de Paris 8 Vincennes quand... François l'a quitté. Il s'agissait pour un public ouvrier, principalement ouvrier, de parler des grands mouvements philosophiques et politiques du siècle, disons, ou du 19e et du 20e siècle. Enfin, on avait parlé de Proudhon, de Saint-Simon, de Marx, bien entendu, des différentes théories des régimes totalitaires, notamment le fascisme italien, le nazisme, etc., en nous appuyant sur des textes et en essayant de communiquer les quelques connaissances que nous avions rassemblées, les quelques réflexions que nous proposions à un public ouvrier qui donc avait une culture, évidemment, uniquement celle qu'il avait pu recevoir. Et François excellait dans cette aptitude à... Comment dire ? À faire comprendre concrètement ce que veulent dire les textes théoriques qui paraissent les plus abstraits. C'est ça la philosophie démocratique de François.
J'étais existentialiste de cœur dès 1944, dès la libération. Parce que dans ce monde très atteint et très vivant de la libération, Sartre a représenté pour nous, je dois dire, quelque chose d'essentiel. Le grand débat, c'était celui, le grand débat philosophique, c'était celui qui opposait les marxistes et les chrétiens. Chrétien, je l'ai été jusqu'à 11 ans, et j'étais déjà fort éloigné de cette perspective. Et le marxisme que l'on présentait à l'époque, c'était précisément le jdanovisme. Et déjà, j'avais de très fortes réticences à son endroit. Alors, Sartre, personnage indépendant, sans force politique derrière lui, m'a touché en tout cas énormément. Le fait qu'il ait, en même temps que de la philosophie, écrit des romans, fait du cinéma, écrit même des chansons. Le fait qu'il ait eu cette vie que les journaux à scandale présentaient d'une manière honteuse, mais que nous connaissions parce que nous allions le voir de temps en temps et nous parlions avec lui au tabou, tout cela présentait une espèce de philosophie vivante par opposition à ces débats doctrinaux fort ennuyeux auxquels nous assistions, ces chrétiens et ces marxistes qui débattaient pour savoir s'il y avait une dialectique de la nature ou non, ça nous paraissait vraiment dénué de toute espèce d'intérêt. Déjà, moi je m'apercevais que c'était de la spéculation inutile. Alors bien que je n'ai jamais été existentialiste parce que je n'ai jamais pu adhérer, peut-être par un rationalisme excessif, à la philosophie de la subjectivité, Sartre, écrivant les articles dans les temps modernes, prenant des positions, a eu une très grande importance pour moi. Mais comme homme, peut-être plus que dans ses écrits théoriques. J'ai rencontré Gaston Bachelard dès 43 ou 44, je ne me souviens plus précisément. Il était notre professeur d'épistémologie, de philosophie des sciences. On employait plutôt cette expression à l'époque. J'ai adoré immédiatement, j'ai suivi avec passion les cours que Bachelard consacrait à la science. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il avait une manière d'enseigner qui reliait constamment l'expérience affinée du savant à l'expérience prise dans sa généralité. Je me souviens de cours qu'il nous faisait sur la mesure, par exemple. Il partait de son expérience de postier, car il avait été employé des postes, celui qui pèse des lettres. Et à partir de là, il avait une manière étonnante de monter jusqu'aux plus grandes abstractions concernant la mesure. Ça, c'est une chose qui m'a toujours beaucoup frappé. Et puis, un immense talent poétique pour faire vivre la science dans son acte. Une science au présent, une science vivante. Lorsqu'il nous parlait de la crise des mathématiques à la fin du XIXe siècle, nous nous sentions vraiment dans des congrès de mathématiques où les mathématiciens s'insultaient sur des concepts extrêmement abstraits. Et du coup, nous sentions l'importance décisive qu'il y avait à comprendre, et nous faisions des efforts pour comprendre les enjeux de ces débats si passionnés sur des réalités en apparence si vides, si abstraites, si formelles. Je crois que le privilège essentiel de Bachelard, c'était de donner une intense envie de travailler. Il y avait, à l'écouter, une manière de plaisir musical et poétique. Je ne prenais pas de notes, par exemple, à ses cours. C'était impossible. Il m'aurait paru illégitime de transformer en petits caractères noirâtres cette explosion naturelle qui se déroulait devant moi. Mais, dès que j'étais sorti du cours, je me précipitais à la bibliothèque Sainte-Geneviève, parce que c'était là qu'il y avait des livres, il y en avait peu en librairie à l'époque. Et d'ailleurs, quand il y en avait, leur prix excédait largement les capacités de nos maigres bourses. Je me précipitais à Sainte-Geneviève pour lire, pour approfondir, et aussi pour venir avec des objections, parce qu'il aimait les objections. Nous le guettions à la fin de son cours, on n'intervenait pas au cours, parce qu'il en avait tellement à dire que ça aurait été injuste de se priver de sa parole. Mais nous le guettions à la fin du cours pour pouvoir, dans les couloirs, et en l'accompagnant quelquefois jusque chez lui, jusqu'à la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, lui objections ceci ou cela, et avec une très grande bonhomie, il nous expliquait pourquoi cette objection était intéressante ou pourquoi elle était tout à fait à côté du problème. J'ai eu un autre maître que j'ai vraiment beaucoup aimé, et ça a été Jean Val. D'abord parce que c'est certainement l'esprit le plus original qu'ait compté l'époque. Pensez que cet homme, en 1929, alors que personne n'en parlait, a consacré une œuvre à la philosophie de Hegel, qui était méconnue des Français, qui était tombée en méconnaissance car il avait été connu au début du siècle, et une autre œuvre à la philosophie anglo-saxonne, à Whitehead. Et depuis lors, Jean Val n'a cessé de découvrir des auteurs. Ce qui m'avait personnellement beaucoup frappé, c'est qu'il n'avait pas de tendresse personnelle, il avait même de l'opposition violente, et comme je la comprends, contre Heidegger, à qui il n'a jamais pardonné d'avoir été nazi. Mais il nous l'a fait découvrir, Heidegger, et avec quel art, avec quel talent de lecture, de traduction. De plus, bien avant 68, ça a été un des professeurs qui donnait la parole aux étudiants. Il ponctuait son cours de sa petite voix un peu nasillarde en disant « Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire ?» Jean Val, Gaston Bachelard, je les ai aimés parce qu'ils étaient une incitation constante à chercher de soi-même, par soi-même. Des gens qui n'imposaient rien.
Dans sa formation intellectuelle, plusieurs personnes ont été importantes, et je pense en particulier à Kojève, qu'il appelle quelque part un fonctionnaire de l'humanité.
Oui, oui, oui.
Et évidemment aussi Erik Weil.
Erik Weil a été très important. Je ne sais plus qui nous a fait connaître Erik Weil dans les années 46, en 46 à peu près. Et nous allions une fois par semaine, je crois que c'était le mardi, chez Erik Weil qui habitait quelque part du côté de Meudon, Clamart. Le petit Clamart ou quelque part par là, un appartement de petits fonctionnaires de l'université allemande, un appartement assez extraordinaire avec des vieilleries au mur. Et là-dedans, Erik Weil nous recevait très très chaleureusement et nous rendait des services incroyables en nous faisant comprendre, en nous faisant connaître des textes ou mal connus ou mal compris, et notamment des textes de Hegel. Et Erik Weil allait chercher dans son cagibi incroyablement en désordre des articles de la presse allemande et même une fois un article, mais je l'ai recherché, je ne l'ai pas retrouvé, un article que Hegel avait écrit dans le Berliner Beobachter, donc à la fin de sa vie, probablement vers 1826 ou 27. Un article sur l'exécution d'un condamné à mort. Erik Weil nous le lisait et nous le traduisait en même temps. Et c'était un journal qui était lu par la bourgeoisie berlinoise, la bourgeoisie bien-pensante. Et Hegel s'était payé la figure de ses lecteurs, soit, en racontant qu'au moment où le condamné est sorti de la prison, le ciel était très gris. Et au moment où il est sorti de la prison, un rayon de soleil est venu l'éclairer, et une jeune fille dans la foule s'est évanouie en disant « Il était beau, le criminel ». Alors Hegel instrumente sur ce « Il était », puisqu'il est encore, puisqu'il n'est pas encore mort, il va mourir. Mais... Et alors Hegel, ensuite, pendant trois ou quatre colonnes, argumente et philosophe là-dessus. Erik Weil adorait ce texte, qui, à ma connaissance, est toujours assez inconnu. Enfin, j'ai jamais retrouvé. Et François appréciait beaucoup ce genre de truc. Enfin. Et c'est là que c'est Erik Weil qui nous a fait comprendre que Hegel est à la fois, c'est à la fois sa difficulté et sa facilité, il est à la fois le plus abstrait et le plus concret. C'est le fait que ce philosophe ne désespère jamais de la rationalité. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de moment lyrique, si vous voulez. Il y a un certain lyrisme souterrain dans tous les textes de Hegel, mais il y a toujours un effort de la raison pour arriver à quelque chose de communicable. On retrouve, si vous voulez, quelque chose qui a à la fois, qui d'une part a traversé toute la vie de François et qui d'autre part, je crois, caractérise fondamentalement sa propre attitude philosophique.
Au mois d'août 48, lorsque sont proclamés les résultats de l'agrégation, François Châtelet est reçu par l'inspecteur général qui lui signifie son affectation au lycée d'Amiens.
Brusquement, dans le petit bureau poussiéreux de l'amphithéâtre Descartes, le découragement s'empara de moi. Que signifiait ce titre tant envié, ce mariage, cette profession qui allait assurer mon indépendance financière, s'il ne se traduisait pas par un changement profond? Parce que nous étions heureux, entourés de bons amis, dotés de familles auxquelles, malgré des conflits mineurs, nous étions attachés, trop attachés, Jeanne-Marie et moi, je désirais une révolution, ou au moins une perspective plus aventureuse.
André Acoun.
On lui a dit, si c'est pas Amiens, c'est Oran. Il a dit, Oran, formidable, l'exotisme, il est allé à Oran. Oran était une ville un peu particulière, assoiffée de culture et de mode, et Châtelet, jeune agrégé venant de Paris, c'était vraiment le centre des regards et des oreilles. Alors c'est là que je l'ai rencontré. Ensuite il est parti 4 ans en Tunisie, où il a fait les Hippocanes, où il a connu beaucoup de monde, et il a gardé, je crois, toujours un souvenir très fort de cette période. Il n'est resté que 2 ans à Oran, il a été obligé de quitter au bout de 2 ans. Le professeur de philosophie de l'université d'Alger, je crois bien que c'était Ménard, que je l'ai eu comme professeur, lui en a voulu et s'est arrangé pour qu'il parte, apparemment, je dis bien apparemment, et c'est toujours Châtelet qui parle par ma bouche en l'occurrence, hein, apparemment pour des raisons politiques, en réalité parce que Châtelet flirtait avec sa fille, et que ça ne lui plaisait pas beaucoup. Les raisons réelles étaient celles-là. Alors Châtelet est parti en Tunisie, il l'a d'ailleurs pas du tout regretté, il en a gardé vraiment et beaucoup d'amis et un très grand souvenir. Voilà.
Il a rencontré à Oran et à Tunis beaucoup de gens qui allaient par la suite devenir des amis.
Ah, écoutez, Châtelet, partout où il est passé, s'est fait des amis qui lui sont restés toujours fidèles. Parce qu'il avait 2 qualités particulières. La première, c'est qu'il avait une grande qualité d'écoute. Il était d'une politesse et d'un raffinement extraordinaire qui faisait que quand quelqu'un lui parlait, ce quelqu'un avait toujours l'impression qu'il était terriblement important. Puis la deuxième chose, c'est que Châtelet avait un sentiment à la fois très démocratique et très aristocratique. Je m'explique. Il était très démocrate dans la mesure où, quelle que soit la personne qui était en face de lui, elle avait toujours pour lui la même importance que n'importe qui. Je n'ai jamais vu François Châtelet avoir une attitude différente selon qu'il était devant un grand de la société ou devant un élève. Non, il a toujours eu la même attitude à la fois de considération, de chaleur et de politesse. Donc il était vraiment, je veux dire, jusqu'au plus profond de son être, très profondément démocrate. Et en même temps très aristocrate au sens où la culture était un domaine dans lequel tout le monde pouvait entrer, mais encore fallait-il que tout le monde fasse l'effort d'entrer. Et de ce point de vue-là, c'était un aristocrate de la culture. C'est ce qui explique, en dehors de la chaleur de son verbe et puis de sa présence physique, ce qui explique que partout où il est passé, il a laissé des souvenirs, il a laissé des traces et il a laissé des amitiés qui ne sont jamais perdues. Je veux dire, quelqu'un pouvait ne pas voir Châtelet 20 ans, le voir 20 ans après, la communication se refaisait immédiatement, sans problème. C'était un homme tout à fait remarquable.
Absolument. Sur le site de la montagne Sainte-Geneviève, au Collège international de philosophie, journée d'hommage à François Châtelet.
C'est fini. Moi, je me rappelle très bien les traits prophétiques de François de l'époque.
Marc Ferro.
Il avait dit un beau jour, tout ce qu'il racontait, ce serait fini. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Parce que j'étais un petit gamin, je n'étais pas comme toi, un adulte, toi, à l'époque. Et qu'est-ce que ça veut dire, tout ce que je raconte, ce sera fini? Il me dit, oui, la philo, c'est mort. En 48, la philo, c'est mort. Pour moi, c'était particulièrement vivant, puisque ça m'avait appris à vivre. Ça m'avait appris à penser. Je me rappelle très bien, quelques années plus tôt, j'avais été le prof de l'élève de Merleau-Ponty, à Paris. Et je me rappelle très bien que j'écoutais pas nécessairement ce qu'il disait, parce que ça allait vite vers les hauteurs, mais que j'avais eu cette sensation étonnante qui m'apprenait à comprendre le monde, Merleau-Ponty. Et que le prof d'histoire ne m'apprenait rien du tout. Alors que c'est l'histoire qui aurait dû apprendre à comprendre le monde, c'était la philosophie. Et voilà que François disait, tout ça, c'est fini. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Alors, je n'ai pas, sur le moment, bien saisi, mais petit à petit, ça s'est éclairci. Il m'a dit, tu vas voir, la philosophie, c'est mort. Demain, ce sera autre chose. Il n'a pas dit le mot, mais c'est ce que ça voulait dire. Les sciences sociales. On va assister au triomphe des sciences sociales. En tout cas, il ne m'a pas dit ça comme ça. C'est moi qui le transcris maintenant. Mais c'est ce que ça voulait dire. Et il m'a dit, dès 48, il va sortir des gens, tu vas voir. Tiens, j'en connais un. À Tunis. Il m'a dit, c'est Deleuze. Pourquoi j'ai retenu Deleuze? Parce qu'il n'y a aucune raison que depuis 1948, j'ai retenu le nom de Deleuze. Si j'avais dû le retenir, ce serait depuis quelques années. N'est-ce pas? Plutôt. Parce que, quand il m'a dit Deleuze, tu vas voir, ce type, un jour, il fera quelque chose. Il m'a donné d'autres noms, hein, je les ai notés. Mais c'est le premier qui m'a dit. Le fameux Deleuze a sorti un jour un petit livre, donc très tôt, en 50, qui s'appelait « Instinct et institution ». Et je me suis dit, tiens, je vais voir ce que François veut dire par ce mec. Donc j'ai acheté le Deleuze, je me suis procuré le Deleuze « Instinct, institution ». Je dois dire que j'étais à mille lieues de voir le rapport qu'il pouvait y avoir entre instinct et institution. Depuis, j'ai compris. Et puis d'autres sont passés au travers. Mais à l'époque, c'était pas si mal, car c'était un petit opuscule de 30-40 pages, et qui montrait que les instincts tels qu'on les définissait auparavant, c'était plus ça maintenant, etc., etc. Bref, vous connaissez peut-être pas ce livre, mais c'est pas une perte, je crois que finalement il est pas très bon, maintenant. Mais lui, il avait perçu que c'était ce type qui allait plus tard tout chambouler. Il m'a pas donné des noms comme ça en me disant « tu vas voir ». Il m'a donné aussi un autre nom, peut-être vous connaissez aussi. Je m'excuse, hein, s'il y a des présents dans la salle qui ne sont pas cités. Il m'a donné 4 noms. Il y en a qu'un dont je ne suis pas sûr, mais les 3 autres, je mets ma main au feu. Il m'a donné Lévi-Strauss, à une époque où Lévi-Strauss, nous sommes en 47-48, hein, 48, hein, en 48. Il m'a donné Scherer, oui, et puis il m'a dit, je crois, ça je ne peux pas jurer, Foucault. Il a toujours su mettre le doigt sur les talents. Et là, c'est un don qu'il avait, qui était également le fruit de sa culture, sans doute, mais de son génie propre, son radar. Il avait un radar au-dessus de la tête.
Gilles Deleuze, Amphithéâtre Poincaré.
Et je crois réellement que dans la pensée de Châtelet, il y a eu constamment comme dimension affective, première détermination d'un véritable pathos. Il y a eu d'un bout à l'autre un désespoir du monde, un désespoir à l'égard du monde. Que faire avec un pareil monde? Et puis il y a une seconde dimension du pathos. La seconde dimension du pathos, c'est tous ceux qui ont connu Châtelet en ont été frappés parce qu'ils le présentaient personnellement, ce trait, mais il ne vaut que comme valeur philosophique. Chacun était sensible à l'extraordinaire politesse de Châtelet. Mais la politesse comme valeur philosophique, c'est la seconde dimension du pathos. Pourquoi ? Parce que face au désespoir du monde, la politesse est le premier début d'un processus de rationalisation. Être poli, en effet, c'est pas n'importe quoi, une politesse grecque. Et une politesse grecque, c'est l'art de la mesure. Et qu'est-ce qu'on mesure dans la politesse? Ce qu'on mesure dans la politesse, vous savez bien, ce qu'on doit mesurer ou ce qu'on mesure dans la politesse, c'est la distance entre les gens. Il ne faut pas être trop loin des gens, il ne faut pas être trop près. Il ne faut pas que les gens soient trop près les uns des autres, comme dans le métro. Il ne faut pas qu'ils soient trop loin non plus. Il y a tout un art schizophrénique de la bonne évaluation des distances. Et cet art consiste à faire de la rencontre entre les hommes un minimum de rituel, la juste mesure. Si t'es trop près de moi, ça va pas, non, me touche pas. Si t'es trop loin, il faut que je crie comme si j'étais un bûcheron, ça va pas non plus. Ils font de longues recherches, il faut de longues études, il faut un art pratique, il faut une praxis pour mesurer les distances qui sont forcément variables suivant les personnes, suivant. Mais si vous ne choisissez pas bien vos distances, il n'y aura pas de rapports humains qui s'instaureront dans une matière quelconque. C'est comme des distances entre des notes dans une gamme. C'est comme ce qu'on appelle des intervalles. La politesse, c'est la détermination des intervalles nécessaires. Et c'est la seconde dimension du pathos philosophique. Est-ce qu'il suffit, est-ce que la politesse suffit à vaincre le désespoir du monde? Hélas, non, pour une raison simple, c'est que pour être poli, il faut être deux et qu'il y a dans le monde de moins en moins de gens polis. C'était la douloureuse certitude de Châtelet. Et puis il y a un troisième aspect du pathos. Et que Châtelet présentait bien, là aussi tous ceux qui l'ont approché le savent, mais tous ceux qui le lisent le sentent. C'est une très profonde et très réelle bienveillance.
En Algérie, et puis ensuite d'ailleurs ça s'est étendu en Tunisie, deux choses ont compté. D'une part, la volonté de connaître le pays, de connaître les gens, et pas forcément les gens que la société officielle lui présentait. De ce point de vue, il a eu des relations profondes, ce qui à l'époque n'était pas toujours facile avec ses collègues musulmans du lycée, ou avec des parents d'élèves musulmans. Il a connu comme ça le Bachaga Ben Miloud, par exemple. Il avait une volonté de découvrir la société qui était derrière la société, ce qui ne plaisait pas toujours à la société officielle. Et d'autre part, la relation avec ses élèves. Ça a toujours été une relation très chaude.
Si Kaladi Ben Miloud, chef de la tribu des Amours, dont le territoire s'étend autour d'Aïn Sefra, qui avait le titre de Bachaga de cette région, vint me consulter à Oran sur les chances qu'avait son fils, mon élève, de réussir au baccalauréat. Je l'avais rassuré, et il m'avait invité à venir passer les vacances de Noël en compagnie de mon épouse, de René Scherrer et de Georges Salet à Tiout, l'oasis où il résidait habituellement. Le personnage m'avait immédiatement séduit. Il réalisait l'image du seigneur du désert qui avait bercé mes rêveries d'enfant. Alors que je parlais gravement des progrès de Khaled Ben Miloud dans le salon de l'hôtel où descendait Si Kaladi, des phrases de mes livres d'aventure me traversaient. Ses traits fins sont incuivrés, ses yeux gris acier respiraient la noblesse et l'énergie. Le cheikh parlait notre langue avec raffinement, mais dans ses phrases passait toute la sagesse de ses ancêtres. Le costume traditionnel aux fines étoffes rehaussait encore la fierté de l'attitude. En vérité, Si Kaladi, que nous appelions pompeusement Monsieur le Bachaga, sans manquer une syllabe, était un tissu de contradictions qu'il accueillait avec une tranquille ironie et dont il s'efforçait de tirer le meilleur parti pour les siens, c'est-à-dire pour sa tribu.
François tout seul a été le premier à mettre le doigt sur la contradiction majeure qu'avaient les communistes dans leur conduite vis-à-vis des Arabes. Je dis qu'il était tout seul parce que, bien sûr, je n'ai pas fait un sondage, mais j'ai bien vu que, par exemple, il était sensible à un point auquel les Arabes étaient très sensibles, c'est-à-dire eux aussi et surtout, par exemple, l'enseignement de la langue arabe. Qui donc, à l'époque, quand il allait en Algérie, apprenait l'arabe ? Personne. Moi, je sais que j'ai commencé à apprendre le russe. C'est vous dire à quel point je pouvais être débile, arrivant en Algérie, d'apprendre le russe. Mais c'était le signe qu'il ne me venait pas à l'idée qu'on puisse apprendre l'arabe. Lui non plus, d'ailleurs, l'a pas appris, il faut être juste. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il était sensible au fait que le point névralgique des problèmes du moment, et il a eu des conversations avec quelques collègues musulmans, comme moi d'ailleurs j'en ai eu aussi, seulement moi ça m'était passé au travers, il a tout de suite perçu que le problème de la langue était le problème crucial, qui deviendra un problème politique, et que le problème central n'était pas le lien avec le PC français, le problème de la guerre froide, le problème de la lutte pour la paix, appel de Stockholm qui va venir, ou quelque chose comme ça, mais le problème de la nationalité, non pas algérienne, puisque le monde n'était pas encore très, très pratiqué, mais le problème de la nation arabe ou autre. D'ailleurs, il a collaboré à la création de Conscience algérienne, une publication qui utilisait pour la première fois et comme à contre-temps le mot d'algérien. Je dis à contre-temps parce que personne ne disait algérien. On disait les Arabes, n'est-ce pas ? Disons qu'à cette époque, le regard vers le monde arabe n'existait pas tellement chez ce qu'on appelle aujourd'hui les Algériens. Et à cette époque, il y avait plus une révolte qui s'appuyait à sa manière, pour autant qu'elle s'appuyait sur quelque chose, sur la revendication sociale, dans le cadre des syndicats, comme je vous ai dit, ou sur l'islam, quand c'était dans les campagnes, qu'il n'y avait une identité algérienne vraie. Elle n'est venue que plus tard, par toutes sortes de détours. Et si je disais que François était un prophète, c'est en ce sens qu'il a été un des premiers, premièrement, à percevoir le problème arabe en tant que tel, et deuxièmement, à militer dans un sens, je ne dirais pas pro-arabe, parce que là, on me comprendrait mal, et ce serait déplacer les concepts et les réalités du moment. Mais dans un sens qui était celui que visaient les organisations arabes proprement dites, et qui impliquait, non pas une rupture, mais une remise en cause des pratiques, tantôt des communistes, tantôt des syndicalistes, vis-à-vis du problème national. Il avait d'abord une capacité à intégrer le savoir passé et à prévenir le savoir futur qui était incroyable. Je ne voudrais pas parler de lui comme pédagogue, parce qu'il a été mon pédagogue pendant un an ou deux, parce que comme moi j'avais collé à la grecque, il m'y a préparé. Marqué, il a été mauvais pédagogue, je me suis fait coller encore une fois. Deux fois, trois fois. Mais, je dois dire que la façon dont il m'a résumé la philosophie grecque dont j'avais besoin, que j'avais besoin de comprendre, ça devait être en 5 séances. C'est des souvenirs. Et puis ça devait être en 4, puis en 3, parce que j'étais toujours en retard et pressé. Ça, c'est un trait de caractère. Ça a été en 2 heures. Et en 2 heures, il a été éblouissant. Les 4 volumes de la Briole, il me les a comprimés en un exposé extraordinaire. Et tout ce qui lui tombait sous la main, de Prévert à la Briole, c'est pourtant pas la même chose. Toujours est-il que sa capacité...
Tout ce que tu veux, c'est un peu d'or.
C'est de cette époque que date donc sa prise de conscience de la réalité du colonialisme.
La réalité de l'Algérie, la réalité algérienne, oui. Absolument.
Qui restait pour lui une affaire importante.
C'est-à-dire que lorsque la guerre d'indépendance s'est déclenchée, donc en 54, il y avait près de 10 ans, enfin il y avait 8 ans, 48, non, de 48 à 54, il y avait 6 ans, oui. Mais il avait gardé des amitiés algériennes et tunisiennes.
Alous l'épicier, Ali Derbel le marchand de tabac asthmatique, Monsieur Slim l'écrivain public, la famille Bouslama, Siachour, le cabaretier, mon copain Jacques Goujon et son bégaiement aristocratique. Dans mon souvenir, la Tunisie s'effiloche, comme si le vent frais du printemps et le parfum des lauriers roses étaient chassés par les brumes de février et l'odeur boueuse de la lagune. Les saisons passant, les élèves que je préférais partant faire leurs études en France, la nostalgie de Paris que je cultivais jusqu'alors comme une coquetterie devint désagréable. Brusquement, j'eus le sentiment que je manquais une foule d'événements, de rencontres et de plaisirs. Au lycée, à l'école des hautes études où je donnais un cours de propédeutique, je n'avais plus rien à prouver et j'étais menacé, faute de source de renouvellement, de tomber dans la répétition. Politiquement, je savais qu'en raison de mon statut de Français, je n'étais et je ne serais jamais qu'une force d'appoint, de peu de poids finalement. Les séances du ciné-club me devenaient une corvée et le dogmatisme des amis communistes m'avait écarté de l'université nouvelle.
Oui, quand la guerre d'indépendance s'est déclenchée, ben, jusqu'à la fin, il a milité pour... C'était très difficile.
C'était pas une opinion répandue à l'époque.
Non, elle était largement minoritaire, même dans les milieux universitaires. Il avait contribué à fonder, avec un certain nombre de professeurs, donc de enfin, j'ose pas dire de mandarins, mais enfin de spécialistes connus, un comité d'organisation des colloques universitaires, dont il m'avait demandé d'être le secrétaire. Il y avait là M. Dresch, le géographe, il y avait Jacques Berck, le spécialiste de l'islam. Et il y avait le doyen Châtelet, qui n'avait aucun rapport d'homonymie avec François. Le doyen Châtelet était mathématicien. Il y avait, enfin, un certain nombre de... Il y avait Laurent Schwartz. Et l'idée, c'était de réunir des colloques universitaires, c'est-à-dire de... Universitaire, ça veut dire quoi, là? Ça veut pas dire des gens qui ont pris un certain parti. Ça veut dire des gens qui connaissent justement le savoir auquel on faisait allusion, qui savent comment ça se passe sur le terrain et qui essayent de comprendre. Cette compréhension les amenant finalement à des positions politiques qui étaient qu'il n'y a pas de solution militaire, il n'y a qu'une solution négociée. Le fait que lorsqu'on est arrivé à une certitude par les voies de la connaissance, de l'information, de la réflexion, il faille faire partager cette connaissance et cette certitude au plus possible de gens, a fait que François a été, disons, très en pointe dans l'affaire de l'appel des 121, le manifeste des 121. Je ne crois pas trahir un grand secret en disant qu'il était l'un des principaux rédacteurs de ce texte, que j'étais chargé, moi, de faire signer.
Nous avions été conviés, quelques-uns, par le professeur Jacques Berck au Collège de France pour, je crois, élaborer un texte en commun de protestation contre je ne sais quelle méthode utilisée en Algérie. C'était peut-être pas précisément la torture, mais enfin, en tout cas, c'était à propos et contre la guerre d'Algérie.
Jean Lacouture.
Et c'est là que j'ai rencontré donc pour la première fois Châtelet. J'ai été frappé par l'ardeur de son intervention contre la guerre. Or, je croyais savoir qu'il était membre du Parti communiste français. Je lui avais dit, ben voilà, qu'il nous change des cocos. Et il m'avait répondu doucement, mais vous savez, je suis encore membre du Parti communiste français. C'est-à-dire qu'il avait une façon tout à fait brave et tout à fait honnête d'assumer les contradictions, à la fois ses engagements à long terme et aussi les bouillonnements de la la vie politique. C'était un homme libre, à vrai dire. Il était d'autant plus libre qu'il était dans un parti qui ne concilie pas toujours avec les exigences de la liberté.
Ça consistait à dire, cet appel consistait à dire, c'était signé par 121 artistes, professeurs, intellectuels, écrivains, etc., dire, il y a des jeunes Français qui refusent de faire la guerre d'Algérie, qui désertent, qui sont insoumis ou déserteurs, et nous estimons qu'ils ont raison de refuser de faire une guerre colonialiste et raciste. Ça a fait un certain Sprunz. Sartre avait signé, bien sûr. Mais on ne met pas Sartre en prison, alors on ne l'avait pas mis en prison. Mais tous les 121 avaient été convoqués chez le juge d'instruction, François y était allé. Vous êtes bien monsieur François Châtelet, oui, oui. C'est bien vous qui avez signé ce texte. Mais oui, 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 c'est moi. Bon, je vous remercie. C'est tout.
...1954, retour de Tunisie.
Les dieux sont fantasques. Une grande déception m'attendait. Je n'avais pas cru bon de veiller à ma nomination et le ministère m'affecta au lycée de garçons d'Amiens, poste que j'avais refusé 6 années plus tôt. Il n'y avait aucun recours. Je gagnais ce tas de briques également disposées dans un champ de boue. Malgré la fatigue des départs aux aurores, l'ambiance détestable d'un établissement tenu par une administration tatillonne, la régression que représentait pour moi cette situation, je n'ai pas réussi à trouver les élèves déplaisants. Bien qu'ait été évident leur manque d'intérêt pour la philosophie, ils mettaient une grande bonne volonté à rendre supportables nos rencontres. En dépit des classes surchargées, des pannes de chauffage, du climat, de l'odeur de suie qui, dans le petit matin, me poursuivait dans le trolleybus bondé qui me hissait de la gare au plateau où suintait le campus, nous avons tous beaucoup ri dans un demi-sommeil.
C'était Profil perdu, François Châtelet, par Jacques Munier. Avec la participation de Olivier Revaud-Dallonne, André Acoun, Marc Ferraud, Gilles Deleuze, Jean Lacouture et la voix de François Châtelet. Texte lu par François Chaumette. Mixage, Guy Senot, Annick Vincent, Mario Campolongo et Frédéric Sordoilet. Réalisation, Arlette Dave.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 21 janvier 1988. Demain, à la même heure, dans les nuits, deuxième volet de cette série de Profils perdus consacrés à François Châtelet.